for me. I'm on try to walk in my integrity. So Lord, have sweet mercy on me. Set me free and redeem me. No matter what must be, must surely be as for me. I try to walk in my integrity. So Lord, be merciful unto me. Set me free. I'm on the son of the tribe, I'm off the lead, and as a right scribe. I trust in the Lord, therefore I don't slide, I don't slither. When I deliver the kebab, Jaja opens every door when access is denied. Rust are not disqualified, Almighty God has never died. And Jah no dead to spit it deeper than the riverbed. And if you're weak in your brigade, you'll drown like a piece of lead. So wise up, dread uprise instead of kicking it with the wicked workers of iniquity. It's sick to see the way the forces of trickery be disrespected. In human dignity, trying to get rid of me. But we reason critically and carry the banner of victory, no diggity. One love conquers misery, we chant as I'm a day against ignorance and hate. We demonstrate the power of the seventh state, perfection of the faith, climbing over heaven's gates. Salam.
Come on over, my sporting friend. Bring your favorite weapon. Show me how you make your mark from the whistle in the wind to the center of the heart. The moon is full, the night is clear. Season is drawing near. Show me how you claim your ground. Pull the arrow back, take one down, and maybe tonight, maybe you'll show what you feel behind your bow. And maybe I'll go hunting too. Down in the valley with you. Ooh.
Cet escalier qu'il y a ici.
Le grand.
Vous voulez que je vous aide un peu? Bon dia a tots i moltíssimes gràcies per venir en nom de l'Institut de Cultura, de tot l'equip que fa possible doncs, aquesta BC Negra i en especial del comissari, en Carlos Tanón. I estem molt contents, tenim com una sensació de presentar aquesta conversa com si tanquéssim un cercle, que tanquéssim un episodi mal tancat de l'edició anterior, quan estàvem a Port Apache, per això aquesta parada de la nostra xarxa de metro de Ciutat Amagada que ens hem inventat, bé, que s'ha inventat el Carlos, l'hem anomenat Port, perquè l'any passat, doncs, donada la sobtada mort del pare de Yasmina Hadra, doncs no podíem tenir-lo, i ara, doncs sí, avui està assegut aquí amb nosaltres a la BC Negra un any més tard. Aquest ex militar algerià, doncs, sota aquesta identitat femenina, va trobar la possibilitat d'escriure sense embuts. Avui potser parlarem d'una de les seves últimes obres, que és Jalil. I també estem en una parada molt mediterrània. Tenim a Petros Markaris entre nosaltres. Aplaudim al Petros Markaris, però bé, de fet el seu comissari, el Costas Jaritos, és quasi tan important com ell. Recordem que ell ja va venir a Barcelona a la BC Negra perquè va ser premi Pepe Carballo l'any 2012, després va guanyar el Prix du Polar Européen el 2013 i el 2019 doncs, ens ha arribat aquesta Universitat per Assassins. Novament, nosaltres és un festival que no el patrocinen marques de cervesa, sinó entitats com la Fundació Tres Cultures de Sevilla, a qui donem les gràcies per fer possible aquesta xerrada, i serà l'Antonio Lozano el moderador. Ell és escriptor, periodista literari, traductor també de novel·la negra, de novel·les juvenils, escriu novel·les infantils i molts el coneixeu perquè té aquest blog de Negro sobre Negro a Librújula. Doncs és una sessió que es farà en francès i també teniu la traducció simultània. Moltes gràcies.
Bueno, bon dia, buenos días. Es un placer estar aquí. Con estos monstruos de género negro, sin duda son cabezas de cartel. Y también es impresionante ver la cantidad de gente que puede ver un sábado por la mañana aquí para disfrutar de la novela negra y, ya digo, de dos grandísimos autores que no necesitan presentación. Vamos a ver si encontramos terreno común y también disonancias. Obviamente son obras muy diferentes, pero tienen puntos de contacto. Uno de los más importantes sería, sin duda, el abuso del poder, ¿no? Son obras concienciadas. Políticas donde se denuncian pues abusos familiares, abusos económicos, abusos militares, abusos políticos, tienen, ya digo, un marcado acento protesta, digamos. Y sin más dilación, porque seguro que nos quedamos con cosas en el tintero, arranco con las preguntas. Quiero empezar por algo muy, muy genérico, para abrir fuego, no romper el hielo, abrir fuego, que estamos en un festival de género negro. Me gustaría empezar por preguntarles, sin qué factor biográfico, sin qué experiencia profundamente personal o sin qué elemento de su carácter, algo muy íntimo, hoy no estarían aquí. Es decir, no habrían acabado escribiendo novela negra. Y cualquiera de los dos puede arrancar, por descontado.
Comment toi?
Moi, je n'ai pas une traduction ici. C'est pour ça que je suis assis. Je n'ai pas une traduction. Je suis désolé.
Voilà, problèmes techniques classiques.
Quoi?
Non, il ne faut pas. Il ne faut pas le mettre ça. Voilà, il faut le garder comme ça.
C'était bon.
Ça va?
Je n'écoute rien.
Bueno, quizás podemos solucionar el problema
je
technique.
Je suis désolé, mais.
Canal 2, número 2.
Now you hear something? No. No.
Is there anybody speaking in French now?
I'm not hearing anything.
C'est peut-être le volume, il faut mettre
full. C'est top. C'est top.
C'est fini.
Hasta
No, no, moi c'est bon.
No. El meu funciona bé.
Però tu estàs al canal català.
Sí.
On l'ha fet exprès. Pot dir alguna cosa? Sí, com
en català bé.
Alors, c'était pas ma faute, hein. Au moins.
Je l'ai fait exprès, moi, je l'ai comme ça.
Pour qu'il parle seul, vous savez.
Ben, moi, pour gagner un peu de temps, je pense que le roman policier s'est imposé à moi. J'ai la chance d'écrire dans les deux genres, sans aucun problème. Mais quand je suis dans le roman policier, je suis beaucoup plus à l'aise. Je n'ai pas le sentiment d'être dans l'obligation de me surpasser. Le roman policier a cette humilité qui permet d'accéder à une thématique avec un maximum de sérieux, mais aussi avec beaucoup d'aisance. J'aime le roman policier parce qu'il m'a appris beaucoup de choses sur le monde. Moi, je me rappelle, le Mexique, je l'ai connu à travers Paco Ignacio Taibo. L'Amérique, je l'ai connue à travers des auteurs de polar comme Chester Himes et Chase et tout. Et partout, même la Russie, j'ai beaucoup aimé, par exemple, Semenov ou Medvedev. Ce sont des auteurs magnifiques. Et donc, je ne vois pas véritablement la différence entre un roman noir et un roman blanc, parce que moi, je ne suis pas ségrégationniste. Je pense que dans le roman, c'est surtout le talent de l'écrivain. C'est le talent de l'écrivain qui prévaut. Et si on a cette chance d'avoir un lectorat qui nous écoute et qui nous encourage, ben on essaie tout simplement de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est le roman policier. Il faut pas croire. Il faut sortir un peu de la hiérarchisation des genres. Il n'y a pas de genre supérieur à l'autre. Il n'y a que des écrivains. Il y a des écrivains qui sont magnifiques, d'autres qui sont un peu moins. Mais on est toujours dans la générosité. Ça va?
Oui. Alors,
Petros, repito la pregunta, si acaso. La pregunta era si, sin qué elementos de su vida biográficos o que, sin qué aspecto de su carácter, ¿sí? Hoy no estaría aquí. O sea, ¿qué elementos de su vida o de su personalidad, de su carácter, le impulsaron a escribir Novela Negra?
Yes, somebody has to translate this. Quelqu'un doit faire la traducción.
Comment tu es venu au genre littéraire noir? Pourquoi tu es là?
Je n'ai pas la traduction, alors.
Attends, il faut enlever ça. Ça va?
Non.
J'ai
écouté l'espagnol, la traduction espagnole, mais je n'ai pas la traduction française, c'est ça, d'espagnol.
Je vous ferai l'introduction, monsieur, si vous voulez.
Si vous voulez, bien sûr. Bon, allez-y.
Je me demande que sans quelle caractéristique de votre caractère vous n'auriez pas fait, écrit de roman noir.
Écoutez, pour moi, mon aventure avec le roman polar ou noir, comme vous voulez, a commencé avec une visite. La visite était la visite de mon commissaire Jaritos et sa famille. Voilà. Alors, il était l'année 1983. 1993, excusez-moi, 93. Et j'étais en train d'écrire des scénarios pour une série policière télévisée. Pendant c'était le début de la troisième année, et j'étais épuisé avec les scénarios, alors je voulais arrêter. Mais la série était un grand succès, et la production insistait que je continue. Alors, j'ai dit, OK, je vais continuer à écrire les scénarios pour encore 3 mois, et encore on verra. Et après on verra. Et quand je me suis assis à mon bureau pour commencer, soudain, j'ai vu, devant moi, une famille de 3 personnes. Un homme, une femme, une fille que j'allais, un enfant que, à ce moment, je ne pouvais pas dire s'il était un fils ou une fille. Voilà. une famille typiquement grecque, petite bourgeoise. Mon, disons, ma réaction était tout à fait négative. J'ai écrit beaucoup de petits bourgeois grecs dans la série, alors je ne veux pas continuer. Mais l'homme était très persistant. Il était chaque matin là, devant moi, et me regardait. Dans un jour à l'autre, ça est devenu une, disons, une torture pour moi, parce que je ne pouvais pas me concentrer au scénario. Jusqu'à un beau jour, je me disais, si cet homme me torture comme ça, il peut être ou un policier ou un dentiste. Voilà. Et comme ça, j'ai décidé que Kostas Charitos était un commissaire de police. C'était le point de départ. À ce qui concerne mon intérêt pour le roman policier, en ce qui concerne mon intérêt comme écrivain de des romans noirs et policiers, c'est une autre chose. Pour moi, le roman noir d'aujourd'hui est un point de départ, un véhicule pour parler de la société et de la politique. Voilà. Et c'est toujours ce que je fais. Mais, vous savez, c'est la même chose avec la plupart des écrivains des romans noirs de la Méditerranée. C'est la même chose avec Manuel Vázquez Montalbán, avec Leonardo Sciascia, avec Giancarlo Carofiglio, avec Andrea Camilleri, mon ami qui est décédé. Voilà, c'est ça. Mais même ça n'est pas, disons, une nouveauté. Pourquoi ? Parce que même les écrivains du roman bourgeois du 19e siècle ont commencé plusieurs de ces romans avec une histoire policière. Les, disons, roman de Victor Hugo comme
Les Misérables.
Hein, Les Misérables, Le Crime est de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, plusieurs romans de Zola et de Balzac ont comme point de départ une histoire criminelle ou policière. Ce n'est pas une nouveauté, ça, pour nous. Nous avons redécouvert, disons, la liaison entre le roman policier, la société et la politique. Voilà.
Mm-hmm. Je n'avais pas très bien compris la question au départ. Je m'excuse. Moi, je suis venu au roman policier par amour pour mon épouse. À l'époque, j'étais soldat et j'ai été muté au fin fond du Sahara dans les Hogars, à 2000 km de la ville où j'habitais. Et à Tamanrasset, dans les Hogars, on n'avait pas la télé. On n'avait pas la radio, on ne captait rien. Il n'y avait pas de théâtre, pas de cinéma. Donc, pour ma femme, j'étais son seul divertissement. Et voilà. Et un jour, comme j'étais responsable des frontières, j'avais 1100 km de frontières, 300 km du côté du Mali et 800 km du Niger. Quand j'allais faire ma tournée au poste frontalier, je mettais au moins 2 semaines. Ce qui fait que, comme on laissait ma femme sans télé, sans radio, j'ai écrit pour elle mon tout premier roman policier, Le Commissaire Loeb, qui s'appelle Le Dingo Bistouri, qui a été traduit en Espagne, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, quand ma femme, j'essayais de lui laisser 4-5 chapitres, parce que ma femme, elle lisait doucement, donc pour gagner du temps. Donc j'avais écrit 4-5 chapitres à chaque fois, et à la fin, c'est elle qui m'a donné le courage de publier. Je n'avais pas l'intention de publier ce livre. Et quand je l'ai terminé, c'est elle qui m'a donné le courage de le publier. Et c'était aussi ma première découverte de l'essence même de la littérature, la liberté. Avant, j'écrivais sous mon vrai nom, Mohamed Moursoul, mais j'étais militaire et j'étais surveillé par la hiérarchie. Et à un certain moment, la hiérarchie m'a imposé un comité de censure. Mais quand je suis allé vers le roman policier, ça a été une délivrance pour moi. D'un seul coup, j'ai découvert toute la liberté de l'imaginaire et aussi l'audace de s'attaquer aux vrais problèmes. Et c'est comme ça que d'un seul coup, le roman policier est devenu pour moi une manière d'aller au plus profond des choses en restant dans la clandestinité.
Mm-hmm. Et Y uno proviene de la economía. Petros Markaris trabajó para una empresa, para el departamento de exportación de una empresa alemana. Usted, señor Jadra, viene del ejército. Y el funcionamiento de estos dos estamentos ha sido fuertemente denunciado en sus libros. Sin esta formación, contra la que de algún modo sus libros se han revelado, ¿no habrían abrazado el género negro o no tiene nada que ver?
Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. L'armée, c'est une chose. Moi, j'étais soldat à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, j'étais déjà soldat. J'étais à l'école des cadets. Alors, j'ai créé pour moi un territoire qui m'appartiendrait toute ma vie. Et c'était la littérature. Donc, pour moi, à chaque fois que j'écrivais, c'était déserter. C'était sortir un peu de cet engrenage, de cette bulle, de cette forme d'existence carcérale pour aller vers l'évasion. Et donc, j'écrivais parce que j'avais ça dans les gènes. J'étais né pour écrire. J'ai commencé à écrire à l'âge de 5 ans. J'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 11 ans. Donc l'armée n'a absolument rien à voir. L'armée, vous avez une tête pour porter un casque, pas pour réfléchir. Et dans l'armée, on vous interdit de parler. Et parce que c'est la grande muette, et parce que je n'étais pas obligé de parler, alors j'écrivais. Voilà, donc il ne faut pas croire que... C'est vrai que l'armée permet à l'écrivain d'accéder au facteur humain, parce que tout le type humain est là. On n'a qu'à se servir. Mais en même temps, la littérature a ses propres exigences. Elle veut un imaginaire capable d'intéresser le lecteur, elle veut un style aussi, elle veut une langue, une des fulgurances des trouvailles. Et moi, pour écrire, pour moi, ça a toujours été un enchantement que je souhaite partager avec mes lecteurs.
Voilà. Vous savez, quand je pense de ma jeunesse, mon intérêt était toujours l'intérêt pour écrire. L'intérêt de devenir un écrivain. Mais j'appartenais à une minorité grecque dans Istanbul, d'Istanbul. Alors, les minorités sont, disons, de principes et aussi de l'idéologie des communautés très conservatrices. La minorité grecque à Istanbul n'était pas une exception. Alors, quand j'ai commencé mes études secondaires, c'était l'année 1949 et le début du miracle économique allemand. Alors, mon père était tout à fait convaincu que l'allemand deviendra la langue internationale des entreprises et du commerce. Alors, je devais étudier allemand parce que son deuxième rêve était que je continue comme fonctionnaire dans sa société des importations à Istanbul. Moi, je n'avais aucun intérêt d'étudier de l'économie. Mais vous savez, si vous appartenez à une minorité, c'est très difficile pendant les années 50 de dire à votre père, tu sais, je ne veux pas étudier de l'économie, je veux devenir un écrivain. Le monde deviendra fou. C'est tout à fait simple, vous savez. Alors, j'ai dit un beau jour que si vous ne pouvez pas dire non à votre père, votre deuxième, disons, l'imaginons, est de devenir un étudiant épouvantable. Et c'était moi. Jusque mon père, avait la gueule et me disait, c'est fini avec l'économie. Après, j'étais libéré. J'ai fait beaucoup, disons, de boulot et de travail pour survivre, mais j'ai commencé à écrire, pas des romans policiers, mais du théâtre. Je suis devenu un traducteur des pièces de théâtre de l'allemand en grec, très connu en Grèce. J'ai traduit beaucoup des pièces de Bertolt Brecht à grec. Je suis presque un spécialiste de Brecht en Grèce. Mais j'ai même comme point final, traduit la tragédie de Faust de Goethe, tous les deux parties. Bon, alors, mais du pièce de théâtre, je suis devenu un scénariste du cinéma. Et comme Andrea Camilleri, la dernière étape était le roman noir. Comme lui, que comme moi. Nous avons fini, disons, l'aventure avec le roman policier. Voilà.
Y hablemos del Mediterráneo. A la obra de Márcaris, bueno, el ciclo al menos de Jaritos, se le incluye sin duda en la escuela mediterránea del género negro. Y dado que Argelia limita al norte con el Mediterráneo, e histórica y culturalmente hasta ha sido un país muy influenciado por él, quizá podemos también afirmar que la obra de Jadra encaja de algún modo en ella. ¿Hasta qué punto reconoce el influjo del Mediterráneo en su obra? ¿O hablamos de una etiqueta un poco recurrente para englobar lo que al final son sensibilidades como muy distintas?
Moi, j'ai toujours dit que la Méditerranée, c'est le bassin de Dieu, c'est l'Olympe qui descend rejoindre les hommes. Toutes les grandes mythologies sont nées autour du bassin méditerranéen, que ce soit du côté africain ou du côté européen. Et donc, moi, j'ai toujours été enthousiasmé de découvrir des auteurs de la Méditerranée parce que, en quelque part, je me rejoignais à eux, je me découvrais à travers eux. Et je crois que si cette mythologie existe, c'est parce que, tout simplement, il y avait des passerelles qu'aujourd'hui, elles n'existent plus. Mais avant, il y avait cette liberté de circuler qui permettait aux Africains du Nord de venir en Allemagne, en Europe, et ainsi de suite. Malheureusement, l'esprit humain n'a pas évolué. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers la conquête des espaces et la conquête des cultures et des mentalités, nous sommes en train de retomber dans le phénomène grégaire. On se replie sur soi, on a peur de l'autre, nous sommes terrifiés par les médias, par la télévision, par les événements, et nous nous surprenons en train de nous interdire toutes les beautés du monde. Et c'est ça ce qui est dangereux. Si on interroge l'histoire, par exemple, à Rome, il y avait beaucoup d'Africains qui venaient, il y avait des consuls, il y avait des gens qui étaient dans une sorte de très grand respect et d'enrichissement mutuel. Aujourd'hui, l'émancipation, finalement, n'a fait que freiner cet élan vers l'autre. Elle a freiné toutes les générosités et ça nous a rendus étrangers à nous-mêmes. Donc si un jour nous voulions que le bassin méditerranéen puisse nous servir de socle de toutes nos espérances et de tous nos rêves, il va falloir nous ouvrir les uns aux autres. Mais voyez-vous, aujourd'hui, l'être humain a été déplacé. Il n'est plus au centre de toutes les préoccupations. Il n'est même pas à la périphérie de ses préoccupations. Il est très, très éloigné. Il est disqualifié. Donc, tout ce que nous voyons maintenant, c'est la crise financière, l'évolution diabolique, effrénée, qui repose sur la technologie de pointe et sur cette volonté de dominer l'autre. Et à partir de ce moment, dans cette quête névrotique de la souveraineté, on est beaucoup plus proche de l'animalité, de la faune, que de l'humanité, parce que seul dans l'animalité où il y a le mal dominant. Et aujourd'hui, par exemple, quand on voit un Trump à la tête des États-Unis et qui a entre les mains la destinée de l'humanité entière, on devient fou. Comment une caricature, comment une bête foraine est devenue d'un seul coup le destin de l'humanité. Regardez, quand on choisit, quand on fait le mauvais choix, quand on redevient, comment dirais-je, très, très grégaire, très instinctif, quand on se replie sur soi, on perd l'essentiel de l'humanité. Et je pense que l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique. Et le bassin méditerranéen pourrait peut-être servir de passerelle entre l'Afrique et le reste du monde. Donc c'est à nous de nous battre pour que le rêve devienne possible, pour que le partage devienne possible, pour que l'ouverture sur l'autre devienne notre propre délivrance. Ce que je constate, moi j'ai la chance d'être traduit un peu partout dans le monde, dans 56 pays, en 48 langues, donc je voyage beaucoup, je vous assure, quand j'allais avant dans l'Amérique, dans l'Europe de l'Est, j'ai rencontré une humanité. J'ai rencontré des gens qui étaient ouverts, qui étaient, comment dirais-je, curieux, qui avaient cette curiosité saine de découvrir l'autre. Mais ces dernières années, quand je vais là-bas, c'est terrible. C'est terrible, c'est incroyable. L'homme est devenu presque une espèce d'outil de rejet et de diabolisation de l'autre. Et c'est à nous, peut-être, ne serait-ce que pour le respect des générations de demain, c'est à nous d'essayer d'œuvrer pour que l'apaisement reprenne sa place dans le bassin méditerranéen. Merci. Merci. Merci.
Bon, voilà, vous savez, pour moi, il y a deux questions ou deux aspects qui sont très intéressants. Le premier est que j'ai fait l'année dernière une première visite à Matera. Matera est une ville italienne dans l'ouest de Bari, une des plus anciennes et plus, disons, pauvres villes de l'Italie. Quand j'étais à Matera, je suis monté à la colline à eau pour regarder la ville, je me disais, je ne suis pas en Italie, je suis à Cappadoce, en Turquie centrale. C'était la même chose, les mêmes bâtiments, les mêmes maisons, dans, disons, les rochers, c'était la même image. Alors, ce que j'ai vu, parce que j'ai visité plusieurs fois aussi les pays de l'Afrique du Nord, le bassin méditerranéen n'est pas, disons, la culture la plus ancienne, disons, de l'histoire, mais aussi la première culture internationale. Le deuxième point de vue, le roman policier méditerranéen, si on exclut la France, est né dans les pays comme l'Espagne, l'Italie, maintenant la Grèce, qui ont un passé très, disons, fort des dictatures. Et ce passé des dictatures a contribué vers, disons, une orientation, une ligne politique dans le roman policier méditerranéen. C'était se libérer, la liberté se libérer de la dictature et de parler de la politique et des raisons qui a créé la grande orientation du roman méditerranéen vers la politique. Le roman scandinavien est un roman social, mais pas un roman politique. C'est la grande différence pour moi. Vous savez? Et quand je lis les romans de Montalban ou de Camilleri ou de Chacha, ce n'est pas seulement un mystère et un policier qui est invité de trouver la vérité, c'est aussi la réalité quotidienne et la réalité du pays aussi, et cette réalité est une réalité sociale et politique. Voilà.
Je
voudrais juste intervenir. Je crois que le roman policier est très utile. Il est très utile à l'émancipation des nations. Le problème chez nous, en Afrique, le roman policier est négligé parce qu'on pense que c'est un genre mineur. À part l'Égypte, qui travaille véritablement, qui a pris en main ce genre littéraire, tous les autres pays sont très en retard. Ils ne s'intéressent pas beaucoup. Et ce que je fais, moi, de temps en temps, quand je finis d'écrire un roman blanc, je passe au roman noir, c'est juste pour initier la jeunesse à ce genre, qui est, premièrement, il est enthousiasmant, il est très fluide, il est très aéré, et puis il permet aussi d'accéder à une société dans tous ses retranchements. C'est-à-dire, rien n'échappe au roman policier. Il peut avec beaucoup d'humour parler d'une tragédie. Il peut aussi interroger toutes les dérives sociales, les dérives politiques. Et malheureusement pour nous, le roman, je demande à beaucoup d'écrivains de notre territoire, enfin de notre continent, même quand je vais en Afrique et tout, je leur demande d'essayer d'intéresser les jeunes à travers le roman policier. Le problème chez nous, c'est que beaucoup d'écrivains pensent que la seule façon de se faire un nom, c'est de rester dans l'identitaire et dans la protestation. Et ça ennuie. Ce sont des livres qui sont ennuyeux. Mais le roman policier, il est enthousiasmant. Et c'est pour ça que j'espère un jour le roman policier puisse avoir une audience plus large en Afrique. C'est peut-être la seule façon pour nous d'essayer de nous regarder dans un miroir, bien en face, et aller vers l'essentiel.
Y les quería preguntar que hay una frase en la Deshonra de Sarah Iker, la última novela traducida al castellano de Yasmina Hadra, que a mí me impactó, que dice: en Marruecos, cuando se procede de un sector social desfavorecido, la única manera de evitar que lo traten a uno a patadas es hacerse magistrado o policía. Quería preguntarle al autor hasta qué punto es cierta esta afirmación y a Petros si en Grecia ocurre algo similar.
Vous savez, dans les pays où la justice est absente, lorsque la justice est formatée, lorsque la justice est aux ordres, c'est très difficile pour les gens de petites conditions d'exister. Il y a trop un policier, il peut faire ce qu'il veut d'un citoyen, hein, il peut l'envoyer en prison. Il y a d'ailleurs chez nous beaucoup de gens qui sont en prison juste pour délit d'opinion. Et ils ne sont même pas jugés, ils sont là depuis des mois en prison et il n'y a aucun procès autour d'eux, leur dossier est vide, parce que tout simplement le pays où il n'y a pas de justice, c'est un pays qui est livré au plus fort. Et dans nos pays, souvent les gens préfèrent aller s'engager dans la police parce que déjà ils portent l'uniforme d'une certaine autorité qui les met à l'abri de l'abus d'autorité, voilà. Et la magistrature aussi, parce que tout le monde finit devant un tribunal. Et ce que je dis souvent quand je suis en Algérie, enfin quand je suis un peu en voyage, je dis il y a deux choses que je ne souhaite pas à mon pire ennemi en Algérie. Deux choses. Le tribunal et l'hôpital. Donc voilà. Et si vous finissez, si vous êtes un jour face au tribunal ou si vous finissez quelque part dans un hôpital, c'est que quelque part il y a une malédiction qui pèse sur vous. Voilà. Et quand j'écris ça, ce n'est pas une vérité générale, mais c'est une possibilité pour les gens de petites conditions d'essayer d'avoir une visibilité dans leur propre société. Et j'ai écrit un peu plus loin que celui qui n'a pas de saint patron dans ce pays-là, c'est un cul-de-jatte. Il a beau courir, il n'ira jamais plus loin. Et c'est malheureux et c'est comme ça. Et je suis absolument certain que le jour où la justice deviendra chez nous autonome et impartiale, il y aurait beaucoup moins d'oppression, il y aurait beaucoup moins de gens qui vont choisir d'aller à la police ou à la magistrature. Peut-être qu'ils deviendraient ingénieurs ou bien architectes ou écrivains pour participer à l'essor de la nation. Mais pour l'instant, il y a la matraque, et pour éviter la matraque, il faut l'avoir dans la main.
Mm-hmm. Antonio, please, can you repeat? Say the question in English and I'll
in English, French, yeah.
Okay?
There's this line on his last novel where he says that in Morocco, the only way, if you come from a very unprivileged sector of society, the only way to go up is to become a policeman or a judge. I don't know if in Greece something like this may happen. Someone poor can only go up, you know, and gain some respect becoming a policeman or becoming a magistrate.
The point with the Greek police force, the breaking point, is... le problème, disons, avec la police grecque et le point de départ d'aujourd'hui est la police après la guerre civile. C'est très important de comprendre qu'après la guerre civile, on a créé une force de police qui était tout à fait nationaliste, mais aussi avec les pauvres gens qui n'avaient pas aucune autre alternative comme que l'Académie de la police pour faire des études. C'était tout à fait la règle en Grèce pendant les années 50, pendant les années 60, pendant la dictature, après de 67, c'était la même chose. Alors, on a créé une force qui était vraiment très nationaliste, très à droite et très contre la gauche. Voilà, c'était la règle en Grèce. À partir des années 80, la situation a commencé de changer parce que, à partir, disons, pas 40, 80, mais aussi après la chute de la dictature des colonels, avec la première période quand Konstantinos Karamanlis a devenu premier ministre. Voilà. La situation a commencé de changer. On a quitté les soi-disant certificat de l'idéologie correcte, qui ça veut dire n'être pas des communistes ou de la gauche. On a arrêté cette, disons, voie d'entrée dans l'Académie de la police. On a ouvert les possibilités et aussi on a donné aux policiers la possibilité d'étudier dans les universités, même dans l'étranger, qui était une, disons, une possibilité de devenir des policiers avec un point de vue plus ouvert. C'est ce qui est toujours aujourd'hui la situation, plus ou moins. Alors, c'est pour moi et pour mon policier Haritos, c'était une grande, un grand problème parce que il vient des années 50 et 60 avec un père qui appartenait à la gendarmerie et qu'il n'avait que deux alternatives, ou rester dans le village comme un paysan, ou aller à l'Académie de la police. Il n'y avait pas aucune autre alternative pour lui. Il ne pouvait pas aller à l'école de la médecine parce qu'il manquait l'argent, le père. Alors, la police était la seule possibilité pour faire des études. Ce n'était pas seulement pour Harito, c'était pour plusieurs des jeunes hommes de cette période le même problème.
Et aussi pour Idriss Iker, c'est la même chose. Pour Idriss Iker aussi, c'est la même chose. C'est un paysan, il n'a pas d'autre chance.
Il n'y a pas une autre alternative. Tu sais, Antonio, j'ai dit il y a quelques jours que oui, mais Harito savait que après avoir accompli les études, il y avait une place, un boulot qui lui attendait. Oui. Aujourd'hui, on finit avec les études, on ne sait pas si on trouve un boulot. Oui. C'est la différence.
La siguiente pregunta es un poco trampa y un poco especulativa. Y parte de otra frase de la deshonra de Sarah Iker que dice: la mujer siempre es culpable de ser la víctima y así ha sido desde siempre. Ambos han retratado sociedades, llamémoslas falocráticas, ¿no?, donde el poder está concentrado en manos de los hombres y las mujeres muchas veces son tratadas como ciudadanas de segunda. Sé que les pido, ya digo, un ejercicio de especulación, que puede ser un poco baladí, pero ¿cómo creen que sería la novela negra si fuera al revés? Si las sociedades fueran, no sé, vaginocráticas, por decir algo.
Mais ça existe déjà, hein? Ça existe déjà, il y a beaucoup de femmes fatales et tout, autour desquelles tourne toute une histoire. Mais moi, je suis un militant vraiment déterminé pour l'émancipation de la femme. Et cette femme, moi je me rappelle, en 2002, j'ai été invité par une fondation de femmes ici en Espagne. C'était l'époque où la femme, il y avait beaucoup d'assassinats conjugaux. Il y avait beaucoup de femmes qui ont été battues, qui ont été assassinées par leur mari. Et ils m'ont invité à intervenir dans un congrès ou quelque chose, un grand rassemblement. Et j'ai été tellement écœuré par cette ingratitude masculine que j'ai commencé à aller dans les pays arabes pour essayer de faire bouger les choses. Et je vais vous même vous dire une anecdote qui est un peu absurde. Quand j'étais en Arabie Saoudite, à Jeddah, et le consul général de France m'a dit, écoutez, il y a des femmes saoudiennes qui souhaiteraient vous rencontrer. C'est un, il dit, j'ai jamais vu ça. Et ça ne peut pas être possible. Ben, j'ai accepté de les rencontrer. Et ces femmes étaient venues me rencontrer. J'étais avec mon épouse, donc, et leur mari était resté dehors. Ils n'étaient pas d'accord du tout. Et elles ont décidé de me rencontrer. Elles sont arrivées. Elles ont enlevé leur foulard et on a discuté à bâton ouvert. Parce que ce sont des femmes qui se battent. Même si elles n'ont pas les moyens de leur combat, ils ont la conviction. Et quand on a la conviction, on finira toujours par trouver les moyens. Ce que je déplore aussi, c'est cette, cet extrémisme féministe, quelquefois, on ne peut plus dire à une femme vous êtes belle ou vous êtes jolie, c'est très grave. Il faut vraiment se méfier du mélange des genres. Quand on a du respect pour une femme, on peut la magnifier, on peut la chanter. Aujourd'hui, on va vers un extrémisme. D'ailleurs, il y a un extrémisme qui est généralisé, hein. Il y a l'extrémisme syndical, l'extrémisme nationaliste, l'extrémisme idéologique. C'est terrible ce qui nous arrive aujourd'hui. Il va falloir faire un frein. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui a du respect, qui a de l'amour pour une femme, et quelqu'un qui considère la femme comme un objet sexuel. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je ne sais pas, des fois j'ai peur. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup. J'aime les gens. J'adore les gens. Je suis tout le temps en train d'essayer d'engager une conversation avec n'importe qui, que ce soit dans des avions ou dans un train, parce que chaque rencontre m'enrichit. Je n'écris pas pour moi-même, ce n'est pas un agenda, ce n'est pas un journal intime. J'écris pour le monde entier. J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Et donc, dans cette quête heureuse de l'autre, il faut essayer de ne pas rompre les passerelles entre eux. Toutefois, par exemple en Occident, on parle beaucoup de l'émancipation de la femme. La femme, elle a réussi à s'imposer, mais elle reste toujours subalterne à l'homme. Quand je vois, par exemple, ce qui se passe dans l'Assemblée nationale en France, je suppose que c'est la même chose en Espagne ou ailleurs, c'est terrible. Il y a une députée qui vient, qui parle de choses sérieuses, qui parle des choses de la nation, des problèmes de la nation. Et il y a des députés masculins, hommes, qui sont en train de lui parler de la jupe ou je sais pas. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il faut que l'homme s'éveille à lui-même. J'ai écrit dans ce livre que je n'ai jamais vu dans un couple une épouse et un mari. J'ai toujours vu une femme, une mère et un enfant gâté. Et c'est vrai. La femme a toujours materné l'homme. C'est la femme qui élève l'homme. C'est la femme qui instruit l'homme. Et par ingratitude révoltante, l'homme pense que la seule façon de prouver à la femme qu'il a grandi, il essaie de la dominer. Et ça, ce n'est plus acceptable. Moi, je suis absolument certain que le jour où la femme sera complètement émancipée, qu'elle sera libre de ses propres frustrations, de ses angoisses et de ses joies, ce jour-là, il y aura beaucoup moins de violence dans le monde. Je l'espère de tout mon cœur que ce sont les femmes qui vont diriger l'humanité demain. Sinon, les hommes, depuis la préhistoire, ils sont restés toujours des troglodytes, ils n'ont de respect pour rien, et on voudrait s'émanciper et devenir être humain. Voilà. Merci. Et encore, ma femme n'est pas là, hein?
Have you heard the question, or have you heard the question that I did?
Yes, about women.
Women. Well, the original question was, how do you think a crime fiction would be if the power in society was in the hands of the women, you know, more than men?
Look, you know, I was listening to Yasmina speaking about the women in his country, and I was, listening.
En France.
Yes. And, tu m'excuses, hein. Okay. J'ai écouté Yasmina parler des femmes dans son pays ou de l'Arabie Saoudite. Je connais l'Arabie Saoudite, j'ai visité le collège de l'Arabie Saoudite. Et en même temps, je pensais, ce qui est intéressant avec la femme de mon commissaire Adriani. Vous savez, j'ai fait une expérience avec Adriani. Quand je suis en visite dans des pays méditerranéens, soit en Espagne ou en Italie ou en Amérique latine aussi. Et je suis en train de signer des livres. Les femmes mais qui lisent mes romans adorent plus l'Adriani que Haritos. Oui, parce qu'ils me disent « Adriani, c'est ma mère ». Et c'est intéressant parce que dans les pays méditerranéens, la femme est restée comme femme dans la maison, comme mère dans la maison, pendant des centaines d'années. C'était la même chose en Italie, en Grèce, vous savez, c'était toujours. Il y a un avantage, et l'avantage est que dans tout le roman méditerranéen, la cuisine est un grand succès. Parce que les écrivains comme Francis Montalban ou Camilleri ou moi sont grandis dans les maisons où la mère était une cuisinière formidable. Alors, la cuisine a été transférée au roman. L'autre est que, si vous me posez la question d'Adriani, je vais vous dire Adriani, ma mère. Elle est identiquement avec ma mère. C'était comme ça, ma mère. Elle était la mère, elle restait la femme de la maison, mais dans la maison, elle était la reine. Elle décidait sur tout. C'est comme Adriani, c'est ça. Mon père n'avait pas la possibilité de disons, être d'un autre avis ou de faire des objections parce qu'il ne connaissait rien. Alors, il était tout à fait sous le contrôle de sa femme. J'ai vécu dans la famille, je sais. Mais quand on parle de l'émancipation de la femme aujourd'hui et dans la société d'aujourd'hui, c'est une autre question. C'est tout à fait différent. Et la différence est que l'égalité, disons, entre l'homme et la femme, elle est venue très tard. Aussi, je ne parle pas seulement de l'égalité, disons, justicière ou de la loi, mais aussi de l'égalité dans les chances du travail, dans les possibilités du travail, tout ça. J'ai travaillé dans des sociétés pendant les années 60-70, et les femmes étaient sous-payées tout le temps.
Ça continue.
Sous-payées. Et ils n'avaient pas la chance de monter dans, disons...
la hiérarchie.
Oui. C'était comme ça. La femme de ma jeunesse, comme ma mère, était respectée comme la mère. Et était respectée comme une femme qui, disons, avait toute la responsabilité de la maison, mais à part ça, c'était rien. Au moment où elle a quitté la maison, elle était rien. C'était seulement le masculin, l'homme. Voilà. Et moi, j'ai poser Adriani comme femme, comme une femme de Haritos, pour deux raisons. La première est que tous les deux viennent de l'Épire. L'Épire était la région la plus pauvre de Grèce, pendant des années et des années. Alors, la femme était toujours, disons, une sorte de sous, comment on dit,
subalterne, subordonné,
subordonné à l'homme. dans un autre point de vue, et j'ai vu et j'ai vécu avec ça, elle avait une autorité dans la maison. C'est ça que j'ai raconté, que je raconte encore avec le couple Charitos Adriani. Voilà.
Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que la femme avait une certaine autorité à la maison, mais c'était la seule autorité qu'on lui concédait.
Oui.
Mais moi, je suis très heureux de voir la femme sortir de la cuisine et d'aller dans les entreprises et d'aller dans le monde, parce que ça la libère de la dictature de l'homme. Vous savez, une femme qui ne travaille pas, elle n'a pas les moyens de sa dignité. Donc, elle dépend toujours de l'homme, celui qui lui donne, je ne sais pas qui, c'est lui qui doit subvenir à ses besoins. Maintenant, elle a cette autonomie qui lui permet aussi de foutre son pied dans le derrière de l'homme quand il n'est pas à la hauteur. Ma femme, par exemple, elle n'a jamais travaillé et on est mariés depuis 35 ans. Et au début de mon mariage, je me suis posé cette question. J'ai dit, cette femme, elle va dépendre toute sa vie de moi. C'est-à-dire, quand elle veut acheter une robe, il faut qu'elle me le demande. J'ai trouvé ça réducteur, très réducteur et irresponsable. Alors que j'étais officier, on n'était pas très bien payé, j'avais décidé de lui octroyer le tiers de ma solde. C'était pour elle. Le tiers, toujours, c'est pour elle. Et moi, je me charge, bien sûr, des impôts, je me charge des charges de la maison et tout, mais je voulais que cette femme soit autonome, je voulais qu'elle ne dépende pas de moi. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, elle a évolué, parce que la femme, elle évolue très vite. Maintenant, c'est moi qui écris les bouquins, c'est elle qui signe les chèques. Alors, c'est fantastique. Je veux, c'est peut-être la seule façon de voir si on est véritablement aimé, si on est de véritables époux, c'est de donner à la liberté de la femme, pas la liberté, le devoir ou l'obligation de la femme de pouvoir juger par elle-même qui est l'autre. Donc voilà, c'est bien de qu'elle soit à la cuisine. Moi, je me rappelle ma mère aussi, c'était une superbe cuisinière. Mais mon Dieu, je n'ai pas vu heureuse 5 minutes d'affilée dans toute sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien que la femme se libère de l'homme. Il faut qu'elle ait sa propre autorité,
écoute,
sa propre autonomie.
C'est très intéressant. Je me souviens de la relation entre ma mère et ma sœur. Ma sœur a commencé à travailler quand elle était très jeune. Ma mère a accepté parce qu'il n'y avait, ma soeur n'avait pas le moyen de survivre sans travailler. Oui. Mais elle a insisté qu'elle devienne une très bien cuisinière.
C'est pas grave ça.
Elle est devenue une très bien cuisinière, vraiment. Et aussi, elle avait des soucis quand sa fille, la fille de ma sœur a été née parce qu'elle disait « La mère doit rester avec l'enfant. Ouais. » Ça veut dire la mentalité.
Ouais.
Bien sûr que ma sœur a continué à faire sa vie propre, mais ma mère n'était pas heureuse avec ça. C'est ça.
C'est la tradition, c'est tout. Elle a été élevée comme ça.
Sabe mal, se nos acaba el tiempo. Pero quería que me respondiera, aunque fuera en tres frases, en un elemento que los separa, pero ya muy brevemente porque estamos fuera de tiempo, que yo sé que es el tema de la política, en el sentido de que el señor Jadra había hecho un intento por entrar en política. En cambio, recuerdo entrevistar al señor Márcaris, que dijo que jamás entraría en política. Me gustaría saber en por qué difieren en este punto. Brevemente, por favor.
Moi, je connais Petros depuis 20 ans. On s'est connus d'ailleurs à la Semaine Negra de Gijón et depuis on est restés amis tout le temps. Moi, je ne suis pas allé à la présidentielle pour être président. Je savais qu'en face de moi, il y avait un engrenage. Je ne pouvais pas, moi tout seul, changer les choses. Je savais. Mais je voulais que le peuple algérien s'éveille à ses responsabilités. Donc, je suis allé, au lieu d'écrire, parce que tout le monde peut écrire aujourd'hui. Quand il y a 20 ans, écrire, c'était aussi synonyme de mise à mort. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire et peut monter sur les toits et tout. Mais avant, la parole était très, très difficile. Donc, j'ai dit, pas question d'écrire. Il faut aller sur le terrain, regarder le régime bien en face et lui dire, va-t'en. Voilà, je suis allé, je savais pertinemment que je n'allais pas devenir président et je ne souhaitais pas devenir président. Je me sens beaucoup mieux en tant qu'écrivain. J'ai déjà un lectorat qui est assez large. Vous savez, mon lectorat fait la population de la Libye plus la population de la Tunisie. dans le monde. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de conquérir d'autres espaces ou là où je ne suis pas heureux. Je ne suis heureux qu'en littérature. Mais je voulais que les Algériens sortent la tête du sable et qu'ils regardent en face leurs propres enfants. Et ils se demandaient qu'est-ce qu'on va laisser à ces enfants. Et je suis très heureux que 4 ans plus tard, il y a eu ce mouvement magnifique, ce mouvement de Hirak, qui a prouvé au monde entier que les Algériens sont un peuple mature, réfléchi et pacifiste. Ça fait une année que les Algériens marchent dans les rues, chaque vendredi et chaque mardi, ils n'ont pas cassé une vitrine, ils n'ont pas brûlé une seule poubelle. Ça, c'est magique. Et je suis, quand on a un tel peuple en face, on ne peut qu'espérer le meilleur pour les Algériens. Et je suis absolument convaincu que l'Algérie, dans peu de temps, elle va émerveiller le monde. Mmh. Voilà. Donc c'est la présidentielle, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mmh. Moi, pour moi, les présidents arabes, que sont les présidents arabes pour tout l'ordre du monde, je ne voudrais pas leur ressembler. Ce ne sont que les valets des puissances occidentales. Ce sont des rois feignants et des sibarites. Ils sont tout le temps en train de fumer de la cocaïne et de coucher avec n'importe quelle fille. Et ça, moi, je suis très fidèle, je suis très pieux, et je ne touche pas à la cocaïne, je ne touche pas aux femmes des autres.
Ah. Oui, c'est l'hypocrisie, tu as raison, je sais.
Merci.
So, we have to finish very briefly. Why not enter in politics? Why haven't you didn't want to enter in politics? No? Why didn't you want to...
Pourquoi tu n'as pas voulu faire?
Look,
very briefly, if you can.
J'ai eu j'ai reçu une fois une proposition de devenir député. Dans le premier dans la liste, j'ai refusé. La deuxième fois, j'ai reçu la proposition de devenir ministre de la Culture, j'ai dit non. Parce que moi, je suis un écrivain, et comme un écrivain, c'est le regard sur la société et mes différences avec la société et la politique qui ont d'importance pour moi. Pas devenir un homme politique. Je n'ai aucun intérêt de devenir un homme politique.
Dommage pour moi, hein, s'il avait été ministre de la Culture.
J'ai toujours l'intérêt de voir, de parler sur la société et de critiquer la politique. Voilà. Moi, je suis une critique, je ne suis pas un homme politique. Et ce que je fais avec les romans est de essayer à expliquer au lecteur ce qui n'est pas, ce qui est mal dans la société, ce qui n'est pas juste dans la politique. C'est, je comprends que c'est mon, disons,
ta vocation.
But comme écrivain. Voilà.
C'est ta vocation.
La politique, la vocation, voilà, tu as raison. La politique soi-même, elle-même, ne m'intéresse pas, ne m'intéressait pas, jamais dans la vie.
Je m'excuse si je vais attaquer des politiciens ici. Pour moi, la politique, c'est donner une célébrité à ceux qui n'ont pas de talent.
Mm-hmm. Ah! Bueno. Sin duda alguna podríamos seguir mucho rato conversando con ustedes, pero me temo que el tiempo se acaba. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y a ustedes por haber venido, por supuesto.